Voilà, bonjour à vous tous, frères et sœurs de Istres. C'est toujours avec joie que je viens vous rendre visite et reconnaître bien des visages connus, et même des inconnus, qui sont reconnus par le Seigneur aussi. Alors, je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er, verset 1er. Esdras, chapitre 1er, verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui était à Jérusalem, dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des éphés, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. C'est beau, c'est magnifique, hein? C'est un temps de grâce et d'action. Dieu agit par son esprit, et nous savons qu'il agit encore aujourd'hui de même. Il agit dans nos cœurs un jour, il y a peut-être des années, il veut agir ce matin parce qu'il n'est pas le Dieu du passé, mais il est le Dieu du présent et le meilleur est devant nous aussi. Hein. Donc nous sommes dans un temps, pour Israël, pour le peuple de Juda, un temps de renouveau. C'est une époque, on pourrait appeler ça, de restauration. Ils sont partis de Babylone où ils étaient captifs pour retourner à Jérusalem, ça y est, on part tous à Jérusalem, hein. Là vous êtes d'accord, hein. Y a un temps pour tout. Hein. Mais spirituellement parlant, c'est ce que nous voulons vivre à Jérusalem, là où Dieu a dit, eh bien j'habiterai, je résiderai, je mettrai mon nom, et c'est là qu'a été construit le temple, la maison de Dieu. Donc nous sommes dans un temps de réveil, mais tout d'abord un petit peu d'histoire pour situer cette époque. Nous connaissons la période des rois. Premier roi, ça a été Saül. Pas très bon roi, n'est-ce pas? Il a mal fini. Hein David, un roi selon le cœur de Dieu. Il n'a pas été parfait comme personne, comme nous l'avons entendu ce matin. Mais il a été un bon roi, un roi selon le cœur de Dieu. Ce petit berger qui gardait son troupeau, n'est-ce pas, qui a su le défendre, eh bien le Seigneur l'a établi sur son royaume. Son fils Salomon, un des fils bien sûr, Salomon, alors lui son règne a été un peu glorieux d'un côté et malheureusement bancal de l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, eh bien, le royaume s'est divisé en deux, d'un côté 10 tribus, 2 tribus, Israël et Juda. Donc nous rentrons dans la période des rois. Donc nous sommes à peu près à 1000 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Donc la période des rois va se terminer. Pour Israël, elle va se terminer plus rapidement que pour Juda. Et Juda, nous sommes à cette époque-là, est parti en captivité. Peut-être vous posez la question ce matin, mais pourquoi, eh bien, les rois païens sont venus et ont emporté le peuple, ont emporté les affaires de Jérusalem, et même les affaires saintes du temple de Jérusalem. Tout simplement parce que, après des années et des années, et à la fin de la période de ces rois, eh bien, Israël et Juda n'a pas été fidèle. Il est devenu idolâtre, incrédule, et il s'est souillé, il a fait des mauvaises alliances, etc. Donc, ils vont payer le prix. Et nous tombons dans cette période où ils vont aller en captivité. Alors la captivité s'est faite par trois étapes, mais Dieu dans sa grâce déjà avait anticipé, parce que sa colère ne dure pas toujours, son jugement, il a dit après 70 ans, eh bien la grâce de Dieu va agir et il va ramener son peuple à Jérusalem. Alléluia. Et ça va se refaire par trois étapes. Et par la bouche de Jérémie, déjà, le Seigneur avait annoncé, eh bien, que quand ces 70 ans seront passés, eh bien, Dieu allait agir en grâce et allait restaurer, ramener, et nous sommes en plein retour. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, je disais, trois départs et trois retours. Entre le premier exil et le premier retour, il y a en effet 70 ans. Et tout cela avait été annoncé par Jérémie le prophète. Déjà, l'Esprit de Dieu avait annoncé que, eh bien, il va y avoir un retour. C'est un temps de restauration, de rétablissement, de renouveau, de bénédiction. Ils sont comme revenus à Dieu. Quand nous voyons ce passage, nous savons qu'il y a eu 42 360 d'Israël qui se sont levés pour aller à Jérusalem et rebâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez, le compte, on a tout compté, hein, tout a été bien compté. Alors vous me direz, c'est pas mal, 42 360, sans compter les serviteurs, etc. Tout a été compté d'ailleurs. Ça fait peut-être plus que la population de Istres. Hein, vous vous rendez compte, hein, il n'y a pas 40 000 habitants ici, 30 000, si, 40. Oh là là, ça y est, vous êtes comme tout ce peuple, vous voyez, débarqué. Ils ont mis plusieurs mois pour faire Babylone et revenir, pour reconstruire. En attendant, vous me direz, c'est impressionnant, 42 360, ça fait une ville tout entière. Mais en réalité, c'est qu'un petit reste, parce que le peuple est estimé à environ 1 million qui étaient en captivité. Donc ça fait que 5%. 5%. 5%. Tout le monde a entendu ce que Cyrus, le roi de Perse, a proclamé dans son royaume. Il a fait dire, eh bien, qui d'entre vous est de son peuple? J'allais dire, il n'y a que 42 360 qui ont entendu. Hein. Les autres, ils ont continué à dormir. Oh, eh oui, ils ont continué à vivre leur vie. Ils ont dit, oh, maintenant, on est à Babylone, on est installé, on a fait notre vie, ça fait 70 ans, ils n'ont pas jugé de revenir à Jérusalem. Et pourtant, 42 360 ont entendu l'appel de Dieu, ils ont entendu la voix du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous entendons encore la voix du Seigneur? Est-ce que le Seigneur parle? Mais oui, il parle. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple? Qui se lève, hein, à Istres, et qui se lève pour bâtir la maison de Dieu. Non pas à Jérusalem, mais l'église du Seigneur. Alléluia. Nous devons être tous engagés dans la construction de l'église. Et merci Seigneur pour tous ceux qui se sont levés, qui ont entendu l'appel et qui travaillent, et qui se mobilisent, et qui se rassemblent, qui témoignent, qui d'une manière ou d'une autre sont les témoins de Jésus. Amen. Dimanche prochain, c'est les TJ. Mais c'est des anciens TJ, hein, parce qu'ils sont plusieurs, quoi. Il y a deux couples. Et qui ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont répondu. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui se reconnaît comme enfant de Dieu, enfant d'Israël, enfant du Seigneur? Je pense que ce matin, nous pourrions dire tous, je suis un enfant du Seigneur. Amen. Je suis de la nouvelle alliance, bien sûr. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ils se sont laissés réveiller. Tous ne se sont pas laissés réveiller. Tous ne se sont pas laissés interpeller. Tous ne se sont pas sentis concernés, engagés. Mais en attendant, soyons de ceux qui se laisse réveiller par l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand nous étions païens, on était dans la mort. Mort dans nos péchés, mort dans nos offenses. Nous sommes revenus à la vie. Mais parfois, avec le temps, nous pouvons perdre de cette vie, de cette abondance, de cette vision, et nous pouvons ressembler à un nommé, par exemple, Eutychus. Vous vous rappelez Eutychus ? Il s'est endormi. Julien prêchait, il s'est endormi. J'espère que vous n'allez pas vous endormir ce matin. Dire, ah, on s'endort, il n'est pas passionnant, il n'est pas dynamique, il s'est endormi. Pourtant, c'était l'apôtre Paul. Or, si, moi, je sais que quand on regarde les épîtres de Paul et tout ce qu'il a annoncé, s'il y a bien un prédicateur qui est captivant, intéressant, et c'est Paul. Il en avait des choses à dire. Hein. Quand il racontait son témoignage, moi, je n'ai pas un témoignage comme ça. Hein. Et peut-être que quelques-uns aussi. Hein. Mais en attendant, il s'est endormi. Ah oui, parce qu'il était un peu sur le bord de la fenêtre, là. Hein. Bon, ici, vous êtes tous dedans, vous êtes bien calés, vous êtes sur votre chaise. Ici, personne ne tombera de sa chaise, mais vous avez remarqué, il est tombé du mauvais côté. Hein. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a arrêté. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il était là, il était en pleine réunion, il y avait un prédicateur extraordinaire, on a chanté des chants merveilleux, et il s'est endormi. C'est possible de s'endormir. Eh oui. Mais après, je pense que Dieu a fait grâce, on a prié pour lui, il est revenu à la vie. Là, je pense qu'il a écouté Paul. Hein. Et peut-être qu'à la fin de la réunion, il a dû dire, « Ah, mais c'est un peu court, cette réunion. Hein. » Ah, il s'est bien réveillé. Hein. Réveillé. Ah oui. Le réveil, c'est pour le peuple de Dieu. Quand autrefois, c'est la résurrection. On passe de la mort à la vie. Mais quand on a la vie, on est enfant de Dieu, c'est qu'on peut s'endormir, mais on a besoin d'être réveillé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle dans le monde, oui, à tel endroit, en Corée du Sud, d'autres ont dit au Canada, enfin de partout, qu'il y a un réveil. Non, le réveil, c'est pas des âmes sauvées, le réveil c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est nous qui sommes engagés. Et peut-être nous ressemblons un peu à ces gens qui ne se sont pas laissés interpeller en « qui de vous est de son peuple ? Vous êtes du peuple de Dieu, donc faites l'œuvre de Dieu. » Ce n'est pas le temps de dormir, l'Écriture nous dit, que Paul disait aux Romains, c'est l'heure de nous réveiller. Je me rappelle l'été, je suis allé quelques fois peut-être, vous connaissez le refuge, vous voyez, c'est les bonnes vacances là-bas, et il y a des réunions dans la communion fraternelle, et j'avais parlé d'être éveillé, réveillé, etc. Et il y a des familles, donc il y avait un enfant qui avait écouté, participé, et le lendemain, ses grands-parents sont venus me voir, ils ont dit, avec notre petit-fils, on a eu un problème hier soir, il ne voulait pas dormir. Ah bon, il ne voulait pas dormir? Et oui, il a entendu, vous avez dit, il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir, il faut être réveillé. Alors il a dit, oui, mais le pasteur, il ne voulait pas dormir. Il a dit, il faut être réveillé, il ne faut pas dormir, il ne faut pas s'endormir. Et il avait pris littéralement, non, il faut le prendre spirituellement. Hein. Et oui, il y a un temps pour tout. Hein. Être éveillé, une prise de conscience. Peut-être que ce matin, on a besoin de prendre conscience. Bien sûr, notre conscience est éveillée à l'œuvre et à l'appel du Seigneur, à la mission du Seigneur. Mais parfois, le temps passe, les difficultés, les épreuves, les affaires de la vie, et on est pris, on s'endort. Peut-être il vous est arrivé, moi, c'est arrivé. En conduisant, il faut être vigilant. Et des fois, on aurait tendance un petit peu à clignoter. Hein. Je me rappelle une fois, je roulais comme ça, c'est un soir, j'étais fatigué. Puis il y a quelque chose qui m'a dit, « Regarde devant toi !» Je me suis réveillé un peu. Hein. Heureusement, parce qu'il y avait quelqu'un devant moi qui a freiné. Et je lui serais rentré dedans. Oui, être éveillé. Est-ce que nous sommes des gens éveillés, réveillés, conscients, dans la pleine conscience de l'appel du Seigneur, de la mission, les priorités, l'engagement, construire cette Église. Le Seigneur n'est pas encore revenu, mais l'Église, le nombre de ceux qui doivent être sauvés n'est pas encore complet. L'Église n'est pas encore comme le Seigneur veut, quand il va vouloir la prendre avec lui. On a besoin d'être des gens éveillés. Alors, je voudrais vous montrer simplement quelques exemples ce matin, montrant que quand l'Esprit de Dieu agit en nous, dans son Église, comme en ce temps-là, non seulement on va se lever, on va prendre conscience, on va agir, on va retourner à Jérusalem, on va se mettre au travail. Mais je voudrais voir les effets d'un vrai réveil, les effets d'un vrai réveil. Et nous avons non seulement ces 42 360 se sont levés, sont partis, 4 mois de voyage, ils ont passé au travers de bien des contrées, des périls. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au verset 68, plusieurs des chefs de famille à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, qui était en ruine, c'était que des ruines, tout était démoli, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été établie. Vous vous rappelez, c'est sur la montagne de Morija, symbole du calvaire, là où Abraham avait offert Isaac, son fils. C'est un lieu bien désigné, bien précis. Ce n'est pas à droite, à gauche, là, on va faire. Non, non, non. On revient, on rebâtit sur les anciens fondements. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est dit, ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens. Et ils ont apporté 61 pièces d'or, n'est-ce pas, 5 000, etc., d'argent. Ils ont apporté, parce que pour reconstruire cette maison de Dieu, eh bien, il fallait des matériaux, il fallait de l'or, il fallait de l'argent. Donc, la première chose qu'ils ont faite, en arrivant, c'est ce que produit le réveil, un esprit de générosité, de libéralité. Vous voyez, le cœur s'est ouvert. Et ils ont dit, voilà, il nous faut des matériaux. Et ils ont donné volontairement, on ne leur a pas imposé, on leur a dit, c'est une obligation, vous devez... Non, non, non. C'est l'offrande du cœur, c'est volontaire, c'est une libéralité. C'est un peu comme la veuve, vous vous rappelez la veuve de l'Évangile? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a donné? Oh, 2 petites pièces, 2 leptons, les 2 centimes, ça semblait rien. Mais Jésus a dit, elle a beaucoup donné. Parce que le Seigneur ne regarde pas à ce que nous donnons, il regarde à ce qui nous reste. Et il lui restait quoi? Rien. C'est ça la vraie... La liberté, ils ont donné selon leurs moyens, volontairement. C'est une question de cœur, de libéralité. Et je pense que pour le tabernacle de Moïse, c'est la même chose. Quand ils sont partis d'Égypte, eh bien, ils ont dépouillé les Égyptiens, ils sont partis, ils ont fait le plein. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, Moïse a fait l'appel, il a dit « on va construire le tabernacle ». Alors ils ont offert de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, etc., des tissus. Ils ont tout amené, mais ça a été une offrande volontaire. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie, ça doit être volontaire. Amen. Nous ne portons pas comme un fardeau, une imposition. Si vous venez aux réunions d'une manière forcée, il faut que tu ailles. Non, vous êtes venus avec joie. Vous êtes venus volontaire. Et pour tous les domaines de notre vie spirituelle, on fait le ménage avec joie. Alléluia, il y a beaucoup de volontaires. Sors ta liste, tu vois. Et vous savez ce qui s'est passé du temps de Moïse? À un moment donné, le trésorier il est venu voir, il a dit, Moïse, dis au peuple de plus apporter, on en a trop. Vous voyez, quand le trésorier dira, écoutez, à l'Assemblée Générale, il y en a trop, apportez plus. Voyez, ils ont tellement donné, tellement. C'est ça l'esprit de la nouvelle alliance. C'est une question de cœur, d'amour, de vie, de consécration. Moi, je vois que dans la deuxième épître aux Corinthiens, je ne me trompe pas, le chapitre 8 et 9, 2 chapitres. Pourquoi? Pour une collecte. Une collecte en faveur des saints de Jérusalem. Et jamais le mot argent, ça c'est à bannir ça. L'argent, c'est la racine de tous les mots. Ouh là là. Parlons pas d'argent, de maman, pas de place ici. Maman, il n'est pas ici, il est dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont employé ? Ils ont parlé de libéralité, ils ont parlé, n'est-ce pas, de collecte, d'assistance, de générosité, d'action de grâce. 7 mots différents sont employés pour 2 chapitres, pour une collecte, pour nous montrer que pour nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans un esprit, déjà ils l'ont eu dans l'ancienne, et dans un esprit de cœur, de libéralité. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, libéralité, offrande. Ça est le cœur, pour pourvoir. Et en réalité, vous voyez, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Je parle de Moïse et du tabernacle. Ils avaient dépouillé les Égyptiens, et en somme, Dieu avait pourvu afin qu'ils pourvoient. Tu es arrosé afin d'arroser les autres. Tu es béni afin de bénir. Tu es enrichi afin d'enrichir. Le principe, ce n'est pas de l'avarice, de garder pour soi. Non, le centre. Mais Dieu nous fait prospérer afin que nous puissions faire prospérer. Si c'est ce principe, et on le trouve chez David abondamment, quand il dit, mais Seigneur, qui suis-je pour parvenir là où tu me places? Mais tu m'as tout donné, tu m'as donné afin que je donne. Et Dieu l'a béni. Vous connaissez l'histoire de ce petit enfant. Il a aidé quelqu'un qui se trouvait, un voisin, enfin c'est une histoire, pour aider dans le commerce. Enfin, il lui a aidé à décharger son épicerie, des paquets, enfin, etc. Alors le propriétaire, il a dit, ah ben je vais le récompenser un peu, hein, c'est normal. Alors il dit, allez, petit, viens ici, allez, tu m'as bien aidé, là, tu m'as aidé. Écoute, tu vois, il y a des beaux trucs de bonbons. Hein, les enfants, ils aiment les bonbons, il y a des enfants ici. Il n'y a pas que les enfants. Bon, alors, il y a des grands enfants. Il dit, ben, écoute, allez, prends une poignée de bonbons pour te... Qu'est-ce que vous auriez fait ? Reprise, hein ? Ben oui, il n'apprenait pas. Alors il insiste, il dit, t'as pas bien compris, non, mais allez, je te récompense, tu vois, prends une poignée. Il bouge pas. Il dit, mais tu le veux pas? Il dit, non, je préfère que ce soit vous qui me serviez, parce que votre main, elle est plus grande, n'est-ce pas? Eh oui, elle est plus grande. Sa main, elle était petite, oui. C'est l'abondance. Laissez Dieu vous donner en abondance. Hein. Eh oui, la générosité, c'est l'abondance, c'est la reconnaissance, c'est la largesse. Eh oui. Seigneur, deuxième chose que produit un vrai réveil, c'est non seulement un esprit de libéralité, de générosité, de cœur, de pourvoir dans tous les domaines de la vie. Parce qu'en donnant, on reçoit, et on reçoit, on est encore plus riche et on donne encore pour se bénir mutuellement et l'œuvre de Dieu. Mais je remarque au chapitre 3, verset 1er, le septième mois arriva, les enfants d'Israël étaient dans leur ville, donc ils venaient, ils avaient pour eux. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Un seul homme. Ils étaient nombreux, ils étaient différents, on le voit, il y avait des sacrificateurs, des lévites, des gens du peuple, des chantres, des portiers, enfin, etc. Ils se sont rassemblés pour l'action, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église en somme, disons l'Église aujourd'hui, pour bâtir, pour reconstruire, pour ajouter de nouvelles pierres, pour etc., comme un seul homme. Ça nous parle d'unité. Un seul homme. L'Esprit de Dieu nous unit et nous a unis. Amen. Parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Eh oui. À la Pentecôte, vous avez vu, quand l'Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, il est dit, ils étaient un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait, c'est à moi. C'est... Non, non, un seul cœur. Une seule âme, un seul homme. Nous sommes différents, mais complémentaires, et unis par l'Esprit de Dieu, parce que nous avons été baptisés dans le même baptême, nous avons la même foi, nous avons le même Seigneur, amen, et la même espérance, et on se retrouvera au même endroit. Ça, c'est l'unité. Une maison divisée ne subsiste pas. Une nation, une armée, mais l'idée... Un seul corps, une seule âme, nous sommes unis. La Bible ne dit pas « faites l'unité », elle dit simplement « conservez l'unité ». Ne séparez pas ce que Dieu a uni, il nous a unis, amen. On est dans le même bateau, hein? On est dans la même maison, la même famille, le même Seigneur. On peut être sous le même toit et parfois divisé. Ça, je parle pas ici, mais c'est pas le lieu, c'est le cœur. Et il y a deux liens qui nous tiennent dans l'unité ensemble, qui nous rassemblent. Ensemble, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas parce qu'on fait partie, on a une carte. Non, non, il y a le lien de la paix, hein, c'est ce que dit l'Écriture. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est vrai que quand il n'y a plus la paix, c'est la division. Et ça, c'est l'œuvre de la chair, la vieille nature. Galates 5, 2, 20, pardon, l'œuvre de la chair, le vieil homme. On a entendu notre frère Joël nous parler du vieil homme. Ah, on a ce vieil homme. Hein. La chair, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'unité, c'est l'harmonie. C'est, justement, dans la prière, il nous est bien dit, si deux s'accordent, accorder, c'est le mot, ah, les musiciens, l'artiste, là, hein, ça veut dire symphonie. Hein, c'est une unité, une communion, une relation ensemble, unis, un même cœur, une même âme, pour agir pour le Seigneur. Le lien de la paix, quand il y a le lien de la paix, c'est la guerre, n'est-ce pas? Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il sème? Il sème livrer. Livrer, c'est la zizanie, la division, la séparation. Et vous avez remarqué que Dieu unit, mais nous, on peut séparer, on peut briser. C'est le divorce, c'est la rupture, c'est l'opposition, c'est le conflit, c'est la guerre. La guerre, c'est la chair, n'est-ce pas? Mais c'est l'unité de l'esprit, c'est la paix qui doit prévaloir. Comme une mère poule, hein? Jésus parlait de la mère poule qui rassemble. Mais Israël n'a pas voulu. Vous voyez, ce peuple s'est mis dans l'opposition, dans le conflit. Elle n'a pas voulu être rassemblée comme une poule qui rassemble ses petits poussins. Que nous soyons toujours dans l'unité de l'esprit, un en Christ. C'est la prière de Jésus, qu'il soit un comme nous, pluriel, nous sommes un. Ça veut dire différent, le Père, le Fils, mais dans l'harmonie, la symphonie, l'unité, ça c'est le lien de la paix. Quand le lien de la paix et dans les cœurs, dans les maisons, dans l'Église, ça nous apporte la bénédiction. Parce que le Saint-Esprit, c'est un symbole de colombe, symbole de pureté, mais symbole, le bruit, les frais, s'envole. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours, non pas de bruit. Quand on a construit la maison du temple, on l'a construit dans le silence. On n'entendait pas des coups de marteau, ça se produisait dans le silence, c'est taillé à la carrière. Mais on l'assemblait, et nous, le Seigneur nous a assemblés. Bon, il nous taille encore un petit peu de temps en temps, hein, il y a des petites tailles, eh oui. Et le deuxième lien qui tient l'unité du corps de Christ, d'un corps, de l'unité, ce lien qui nous unit, c'est non seulement le lien de la paix, mais le lien de l'amour, qui est par excellence. Agapé, l'amour divin, l'amour du Seigneur, l'amour qui règne, l'amour. Vous avez remarqué que quand il y a cet amour dans l'Église, dans le peuple de Dieu, dans la construction, alors on est dans le travail et on agit avec le cœur, avec amour, avec patience, puisque le Seigneur a dit « Aimez-vous les uns et les autres ». Alléluia. Mais vous savez tout, hein? C'est bien. Alors on va un peu plus loin. Hein? La troisième chose que produit un vrai réveil, c'est ce que nous voyons Josué, fils de Josadac, et ses frères, les sacrificateurs, Zorobabel, fils de Séatiel, et avec ses frères, se levèrent. Ah oui, ils sont venus à Jérusalem pour bâtir la maison de l'Éternel. Mais la première chose qu'ils ont faite, ils ont restauré l'autel. En général, quand on construit une maison, on ne met pas d'abord les meubles. Ici, quand on a construit certainement cette salle, on n'a pas mis le pupitre. Hein? Mais vous avez mis d'abord les fondations, le sol, les murs, le toit. Eux, ils ont commencé par l'intérieur. Vous savez que le Seigneur, quand il agit dans notre vie, le cœur, c'est le centre. Il agit par l'intérieur. La religion, elle s'occupe de l'extérieur. Vous savez, vous ne voulez pas être Non, non, le Seigneur, quand il agit dans notre vie, il agit à l'intérieur. Et de l'intérieur, ça va vers l'extérieur. L'extérieur est changé parce que l'intérieur est changé. Amen. Si vous voulez changer l'extérieur, ça c'est religieux. On peut changer de manière, de forme. Et c'est ce que fait les affaires du monde. On change les manières, mais après, on n'a pas changé l'intérieur. Alors, l'intérieur se réveille. Il se réveille. Mais le Seigneur, lui, c'est d'abord l'intérieur. La première chose qu'ils ont fait, c'est l'autel. Est-ce qu'il y a un autel dans notre vie? Vous savez, la première chose que Noé a fait, sorti de l'arche, il a rendu grâce à Dieu, il a fait un autel. Abraham, il a fait des autels. Et même, il a placé son fils sur l'autel. On voit David, tous les hommes de Dieu construisent l'autel. Le centre, c'est l'autel. L'autel, c'est la croix. C'est le sacrifice, c'est le don de soi, c'est la mort à soi sur l'autel. Et le Seigneur nous a dit de l'autel dans notre vie, je pense, Jésus, on peut dire, il n'a pas été simplement l'autel, Gethsémané, la croix, mais dès le départ, le baptême pour lui, c'était le symbole de la mort à sa volonté, à sa vie. Et toute sa vie, il a porté la croix jusqu'à l'aboutissement de la croix. Et le Seigneur a dit, ses disciples, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prenez votre croix et suivez-moi. La mort à soi, la mort au vieil homme, la mort à la chair, la mort. S'il n'y a pas l'autel, il n'y a pas la vie chrétienne véritable. Paul disait, je suis crucifié avec Christ. C'est plus le moi qui vit. En moi, c'est Christ qui vit en moi. Je vis plus de ma vie personnelle, mais je vis de la vie du Seigneur. C'est Christ en moi. Le vrai christianisme, c'est pas une transformation, une éducation. Non, non, c'est la vie de Christ en nous. Et la vie de Christ, c'est la vie de l'esprit qui triomphe de la chair et qui nous délivre vraiment du vieil homme en marchant selon l'esprit. Et l'autel, c'est le centre, la prédication de la croix, la pensée de la croix est toujours au centre. On voit que tous les hommes de Dieu ont construit un autel. Et on voit qu'une chose, c'est que Saül, qui a été un roi qui a failli, eh bien, dans sa vie, il n'a construit un autel qu'à la fin de sa vie. C'était trop tard. Il n'y avait pas l'autel. Dans le tabernacle, on passait le voile, qu'est-ce qu'on rencontrait? Il y avait l'autel. Et après, il y avait aussi l'autel de la prière, dans le service. L'autel. L'autel, il faut qu'il y ait un autel au centre, au cœur de la construction. Le réveil nous ramène toujours à la croix, à cette pensée de la croix. On voit que Jacob, vous savez, le trompeur, le rusé, celui qui... on a vu avec le beau-père, ils étaient dans les affaires, eux. Je te trompe, tu me trompes, nous trompons, c'était à qui tromper l'autre. Vous avez vu? Là, il ne marchait pas dans l'esprit de la croix, il n'y avait pas l'autel. Mais il a eu Bethel, oui, la grande révélation. Des fois, on dit, oh, j'ai eu Bethel, la grande révélation, oui. Oui, attends, c'est à Péniel qu'il a été changé, vraiment. C'est à Péniel qu'il a connu la croix. Il a fallu qu'il soit frappé à l'emboîture là, affaibli, mort à lui-même, boiteux. Tu resteras boiteux. Et oui, c'est quand tu es faible à toi, tant que tu es fort à toi, je fais, je dis. Vous savez, on se pose la question de... On ne va pas passer toute la Bible, mais quand même un petit peu. Job, eh bien Job, oui, au début, c'est mon serviteur, c'est bien, il a l'éloge même de Dieu, il est passé par un chemin. Mais jusqu'au moment où il va dire à la fin, son expérience, j'ai horreur du moi, traduction d'Harvey, j'ai horreur du moi, je me repens. Il ne s'est pas repenti de péché, il n'avait pas péché, mais il fallait la croix dans sa vie, il a été marqué par la croix. Et c'est à la croix qu'il est devenu, à la fin de sa vie, eh bien, vraiment sur une vie nouvelle et qu'il a reçu la bénédiction, la vraie bénédiction. Il a été restauré, rétabli. Mais d'abord, j'ai horreur du moi, je me repens. Il ne s'est pas repenti de péché, il n'avait pas commis de faute. Dieu lui-même le dit, c'est mon serviteur. Mais il avait besoin de la croix en lui. tous les hommes comme Jacob ont été brisés à Peniel. Job est passé par cette expérience à la fin de... Et nous passons tous par le chemin de la croix. Et si on ne passe pas par là, on va s'arrêter et on ne va pas aller au bout. Vous avez vu Pierre aussi. Il n'était pas dans l'esprit de la croix. Moi, oui, tous, ils t'abandonneront, ils ne valent rien les autres. Hein. Ah, moi, oui, Pierre, je suis... Ah, tu peux compter sur moi. Compter sur lui, il était... Ça, ce n'est pas l'esprit de la croix. Il n'est pas passé par la croix. Il faudra qu'après, et il va passer par là, le brisement, le dépouillement. Et plus tard, le Seigneur l'a averti, il lui a dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Ça, ce n'est pas l'esprit de la croix. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, on te mènera où tu ne voudras pas. Parce que ta volonté, elle sera soumise. Tant que notre volonté n'est pas soumise, on n'a pas l'esprit de la croix, de la mort à soi, afin que le Seigneur vive en nous. Alors, nous avons l'esprit de générosité, nous avons l'esprit de l'unité, nous avons l'esprit de la croix, de l'autel qui règne dans notre vie, mais un autel, il ne faut pas qu'il soit vide. Vous direz, moi, je me mets sur l'autel. Oui, mais un autel, il doit être garni d'un holocauste. Eh oui. Trois fois, il est dit dans ce passage, ils ont rétabli l'autel pour offrir des holocaustes. C'est nous l'holocauste vivant. Hein. Romains 12 nous le dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant qui sera agréable à Dieu. L'holocauste, pas l'offrande du péché. L'holocauste, c'est l'offrande de la consécration, du don de soi, de la mort à nous-mêmes, mais qui a pour effet positif de la consécration de soi. On met sa vie sur l'autel. Le feu du ciel ne descend pas sur un autel vide. Qu'est-ce qu'il a fait ? Élie, regardez Élie. Le peuple s'est détourné, ils sont allés vers les faux dieux, ils marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est un peu, on pourrait le dire, c'est vraiment... Mais Élie, selon la parole de l'Éternel, il va reconstruire l'autel, rétablir les pierres. Mais il va mettre l'offrande, il va prier Dieu, et le feu va descendre. Si nous voulons que le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu descende, remplisse nos vies, c'est en réponse à l'offrande qui est sur l'autel. En attendant, le feu est descendu et a consumé l'offrande. Que le feu du ciel descende sur nos vies, constamment, d'abord ils ont offert les holocaustes, matin et soir, c'est-à-dire continuellement, ils ont renouvelé. Et peut-être le plus difficile pour nous dans la vie spirituelle, ce n'est pas simplement un moment dans une grande réunion, un moment d'émotion, de consécration, d'appel, appel. Eh bien, on va dire, oui, Seigneur, je te donne ma vie, me voici, je vis pour toi maintenant, c'est toi. Oui, mais il faut rester sur l'autel, il ne faut pas descendre de l'autel. Et c'est pour cela qu'il faut le renouveler constamment. Et je pense que chaque fois dans un culte comme nous, nous renouvelons notre alliance en prenant le pain, le vin, nous renouvelons notre alliance de notre consécration et du don de notre vie au Seigneur. Paul disait aux Romains, donnez-vous vous-même à Dieu. Le Seigneur ne vous prend pas. Non, non, c'est un acte volontaire, c'est un acte d'amour. Il s'est donné et moi je réponds à son amour en me donnant et en me consacrant à lui. Le réveil nous ramène toujours à l'autel, à la consécration, au don de soi et à la vie du Seigneur. Parfois on a besoin d'être renouvelé. Et c'est peut-être pour cela qu'on a besoin de mettre des temps parfois un peu... à part, comme vous allez le faire, pour justement chercher le Seigneur, se placer devant lui et laisser au Seigneur le temps de travailler nos cœurs afin que notre vie soit un holocauste vivant. Amen. Embrasé par le feu du ciel, renouvelé. Matin et soir, on offrait. Il ne fallait pas s'arrêter. Et le feu devait brûler constamment. Et vous savez que dans notre vie, eh bien, il y a des moments où le feu, eh bien, il s'éteint un petit peu. Et c'est pour cela que Paul disait à Timothée, ravive la flamme, il faut que le feu brûle et nous donne du zèle. Et vous avez remarqué que quand ce feu brûle dans notre cœur d'amour pour le Seigneur, tout devient facile. Et quand il n'y a pas le feu, tout devient difficile. C'est comme Simon de Cyrène, on l'a forcé à porter la croix. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de passer à ce moment-là ? Oh, c'est dur, oh, c'est lourd. Et au plus, vous vous sentez lourd ? Non, vous êtes venu avec un pas léger ce matin, comme des gazelles. Hop là, hein, la gazelle, c'est léger, ça court. Autrement, si vous dites encore, et puis pourvu que le pasteur ne fasse pas comme Paul qui a prêché jusqu'à minuit et il ne s'arrête plus et reprend les conclusions. Je plaisante un peu, c'est pour savoir si vous êtes bien réveillé. Dernier point. Allez, dernier, c'est en fini cette fois-ci. Il nous ramène, c'est simple, vous regardez, y rétablir l'autel sur les fondements, etc. Et il est écrit, pour offrir des holocaustes, bien sûr, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. C'est marqué deux fois. Ils ont fait la fête des tabernacles selon comme il est écrit. Ils ont offert des holocaustes matin et soir, comme c'est ordonné selon la parole. D'ailleurs, Élie, qui a fait descendre le feu du ciel et a ramené les cœurs des peuples, eh bien, la Bible dit que Élie dira, j'ai fait toutes choses, pas de moi-même, hein, selon ta parole, selon ce qui est écrit. Le réveil nous ramène toujours à la parole, à l'obéissance de la parole. C'est la parole. Ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent ma parole. Je sers ta parole. Ils avaient, le contexte dit, ils auraient pu avoir peur des gens du pays qui étaient contre eux. Mais la Bible dit, ils n'ont pas craint les gens, le peuple du pays, les adversaires. Et l'ennemi va se manifester, on verra plus loin qu'il va se manifester, à tel point qu'il va faire arrêter les travaux. Donc, mais là, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas craint. Parce que quand le feu brûle, on n'a pas peur. Vous voyez, on n'a pas peur. Et je termine par ce dernier verset que je vous laisse sur le cœur, que vous allez méditer, vous allez faire votre hors d'œuvre avec ça, n'est-ce pas ? L'amour parfait, total, entier, banni, jette dehors. Il n'y a pas de place pour la peur, la crainte. L'amour parfait, banni, la crainte. Si tu aimes le Seigneur, tu brûles pour lui, alors la crainte, l'adversité, l'opposition, la persécution, le prix à payer, tout ça, on le surmontera. Parce qu'il faut que notre cœur brûle pour le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un vrai réveil qui porte du fruit d'unité, de générosité, d'autel, de consécration et qui nous donne du courage pour bannir la peur. Merci Seigneur. Alléluia, on prie. Gloire à toi, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce qu'en Jésus-Christ, tu es allé à la croix, alléluia, sur l'autel. Tu as livré ta vie, attaché aux cornes de l'autel par des clous. Seigneur, tu as livré ta vie, tu t'es donné pour nous un sacrifice. Quel amour, quelle grâce, tu l'as fait volontairement, tu as dit « personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même, alléluia ». Parce que tu es le bon berger, tu es le Seigneur de gloire, tu nous as aimés. Ton amour est si grand et cet amour doit embraser nos vies afin de te servir et de porter du fruit, et un fruit qui demeure. Alors ce matin, ravive la flamme encore, que la flamme brûle dans notre vie, que ton amour nous passionne, nous étreint, que l'amour de Christ nous presse, comme disait l'apôtre Paul, que nous vivions pour toi comme tu es mort pour nous, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur d'agir encore au sein de ton peuple, de ton Église, afin que ce matin encore nous puissions nous lever pour aller, pour travailler, pour rétablir, pour restaurer, pour reconstruire, Seigneur. Tu veux te servir de nous, tu veux nous utiliser les uns et les autres à renouveler notre zèle, Seigneur, renouveler notre vision, notre action. Et ce n'est pas pour nous le temps, c'est vrai, de sommeiller, de dormir, mais c'est le temps de se réveiller parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Les temps sont courts et difficiles. Mais avec ta grâce, avec ton amour, avec ton esprit, eh bien, nous pourrons accomplir ton œuvre et voir ta gloire. Alors bénis ton héritage, bénis-nous chacun en particulier ce matin et renouvelle-nous dans notre consécration, dans notre vision et dans notre travail. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.